À quoi peut ressembler une véritable démocratie écologique pour lutter à la fois contre les inégalités et le changement climatique? Je reçois dans un instant donc le philosophe Dominique Bourg qui publie un livre sur la question aux presses universitaires de France, Le marché contre l'humanité, un ouvrage dans lequel il explore d'abord les différents sens de la souveraineté. Il montre également comment les inégalités sont apparues très tôt dans l'histoire des populations humaines, comment la notion de progrès est à relativiser et comment les enjeux écologiques actuels bousculent les démocraties modernes. Dominique Bourg est mon invité dans un instant. Vous pouvez dialoguer avec lui dès maintenant. Nous appelons au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On passe au vert avec vous dans un instant.
Et on va au Sénat pour parler climat.
Le reportage de la semaine avec Sandy Dauphin qui s'est rendue à Langouette en Ille-et-Vilaine. Aujourd'hui, elle nous emmène sur le chantier d'un futur lotissement écologique. Vos solutions pour la planète. Nous serons avec Martin, un auditeur qui va nous parler des ressourceries, ces lieux où l'on donne une deuxième vie aux déchets. Et puis enfin, nous invités découvertes sont deux jeunes scientifiques qui vont recevoir ce soir le prix Jeunes Talents de la Fondation L'Oréal en partenariat avec l'UNESCO. L'une étudie un nouvel habitat pour un cétacé en danger et l'autre une mobilité électrique plus éco-responsable. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï avec à la technique Louis Audebert et Loïc Frapsos.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Bonjour Dominique Bourg.
Bonjour Mathieu.
Philosophe, essayiste et ce livre, Le marché contre l'humanité aux presses universitaires de France. Vous commencez Dominique Bourg cet ouvrage en expliquant que nous restons attachés à des mantras qui finalement tétanisent notre esprit critique. Or, vous prenez trois domaines justement dans lesquels les changements ont été très importants. Il s'agit du marché, des techniques et de l'environnement. Ce triptyque représente selon vous un enjeu fondamental pour notre humanité aujourd'hui ?
Ah bah, totalement, c'est ce qui va déterminer d'une certaine manière, ce qui est en train de déterminer notre futur. Et sur chacun de ces points, on a connu des ruptures majeures.
Alors justement, vous parlez évidemment beaucoup d'environnement, on va en discuter avec vous, mais vous commencez justement cet ouvrage en évoquant la souveraineté, un terme qui peut sembler abstrait à bon nombre d'entre nous. Vous l'entendez comment, vous, la souveraineté explicite en particulier?
Oui, alors la souveraineté, c'est en fait la mise en ordre, la mise en forme de nos existences, des relations qu'on exerce les uns avec les autres. Alors, il y a un sens politique qui est très clair. Ben, comment s'organise une société, le rapport entre les riches et les pauvres, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, etc. C'est ce qu'on appelle la souveraineté politique. Il y a une espèce de souveraineté morale et anthropologique. C'est cette faculté qu'on a de s'organiser, qu'on exerce sur nous-mêmes. Et puis, on pourrait dire qu'il y a une forme de souveraineté économique. C'est-à-dire, cette fois-ci, c'est le pouvoir qu'on exerce sur le milieu qui nous entoure, en produisant des richesses, en détruisant des écosystèmes, etc.
Alors, justement, la souveraineté explicite, ça, ce sont justement les pouvoirs d'un petit nombre d'individus sur tous les autres.
Absolument. Alors, ça n'a probablement pas toujours existé. Quand on regarde du côté du paléolithique, c'est assez marrant. On peut voir des époques, on a des moments de souveraineté explicite où, effectivement, il y a des gens qui semble bien détenir un pouvoir, on est pourtant bien avant l'invention de l'agriculture, et puis ces mêmes peuples, à d'autres moments dans l'année, au contraire, vont se fragmenter en petits groupes humains complètement horizontaux. Donc en fait, si on regarde ce qui est de la souveraineté politique dans l'histoire de l'humanité, on va voir des choses très 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 différentes. Mais effectivement, apparaît l'époque où un petit nombre peut imposer sa volonté au grand nombre. Alors, tout ce qu'on appelle l'idéal démocratique, ça a été justement, en quelque sorte, de se servir de la souveraineté, mais cette fois-ci, pour que la légitimité vienne du grand nombre et que le grand nombre puisse influer sur ce petit nombre.
Alors, ça s'illustre de différentes façons aujourd'hui, le néolibéralisme, par exemple.
Alors oui, là le problème c'est que nos concepts de philosophie classique en termes de souveraineté ont été produits à une époque très très particulière, c'est-à-dire celle qui va en gros du traité de Westphalie du 17e jusqu'on peut dire aux années 70 du siècle dernier, où en fait les États régnaient en maître. Mais quand on regarde dans l'histoire de l'humanité, ça a été rarement le cas. Si vous vous tournez par exemple du côté de l'époque médiévale, eh bien là vous aviez, et à partir de ce qu'on appelle la réforme grégorienne, vous avez une église qui a affirmé son pouvoir, qui elle, à la différence des petits états, couvre des populations immenses, capte la plupart des flux financiers, et à l'époque la grande question de la société, c'est le salut, c'est le chalut de chacun. Et c'est elle qui va dealer, qui va organiser toutes les choses sur cette question du salut. Donc les états ont un petit pouvoir, ils essaient de se défendre monde par rapport à l'Église. Et puis aujourd'hui, c'est plus l'Église, mais c'est le marché.
Ouais. Les gens du web, par exemple, les fameux GAFA, par exemple, qui dominent largement.
Attendez, ils ont un pouvoir extrême. Je veux dire, aujourd'hui, une administration comme l'administration française, elle ne fonctionne plus sans les GAFA.
Ouais.
Ça fonctionne par ses réseaux, etc. On a très bien vu, par exemple, sur le plan de la démocratie, on a vu à quel point la fragmentation du paysage de l'information qu'ils ont produit, qu'ils ont organisé, est une calamité pour les démocraties. Puis si je prends, par exemple, un phénomène qui m'a toujours amusé, c'est le phénomène des platistes. Vous imaginez, les gens qui pensent que la Terre est plate,
ouais.
Ça date, ça a né dans les années 50 en Angleterre, jusqu'au web. C'est quelque chose qui est totalement confiné pour quelques originaux, quoi. Et puis, aujourd'hui, vous avez 6 millions de sites sur le web qui vantent les vertus du platisme.
Ouais.
Alors, faire une démocratie avec ça,
c'est difficile.
Simple,
hein. Et vous y revenez d'ailleurs dans l'ouvrage pour parler justement de la puissance aujourd'hui des climato-sceptiques qui sont toujours là, malgré effectivement toutes les études scientifiques qu'on veut bien leur donner, qui sont là et même parfois très haut placés au pouvoir. Hein.
C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. C'est-à-dire que là, on a depuis quelques années, si vous voulez écoper d'une brochette de gens borderline, pour ne pas dire des abrutis, qui sont au pouvoir.
Trump, Bolsonaro.
Voilà. Et donc, effectivement, alors ceux-là sont... Alors, climato-sceptique, je pense que le mot est trop faible parce que le scepticisme, c'est une attitude philosophique qui consiste à suspendre son jugement. Vous avez remarqué qu'ils ne suspendent pas beaucoup leur jugement, ces gens. Mais en revanche, c'est ce qui guide toute leur politique.
Ouais.
C'est-à-dire, tout ce que fait Trump, c'est détruire l'environnement et détruire d'une certaine manière la cohésion sociale. Ça, il est très fort pour ça. Il le fait extrêmement bien. Et son petit copain Jair, c'est pas mieux, mais dans un autre domaine. Mais en fait, c'est la haine de l'environnement qui, pour l'un et pour l'autre, donne la colonne vertébrale de leur politique. Alors c'est sympa, vu le pouvoir quand même qu'ils détiennent.
États-Unis et Brésil. Tiens, on va écouter un petit extrait du film Wall-E des studios Pixar, Dominique Bourg.
Projetons-nous 700 ans dans le futur. L'humanité a déserté notre planète, laissant à une incroyable machine le soin de nettoyer la Terre. Voici Wall-E. Le dernier robot sur Terre, programmé pour nettoyer notre planète.
Alors, pourquoi Wall-E ? Bien parce que dans ce livre, vous retracez la grande saga du progrès, justement, dans le parcours de l'humanité. L'idée du progrès étant celle que les sciences et les techniques, justement, auraient débouché sur une amélioration générale de la condition humaine. Wall-E, c'est un petit exemple pour montrer le contraire, justement.
C'est le moins qu'on puisse dire. Mais cela dit, l'affaire est très, très ancienne. Alors, il faut bien distinguer ce qu'on appelle l'idéologie du progrès, qui avait sa beauté aussi. C'était l'idée selon laquelle, si vous voulez, l'avancée des sciences devait déboucher sur des avancées techniques et industrielles qui, quant à elles, devaient déboucher sur une amélioration générale de la condition humaine, voire, comme aurait dit Condorcet, sur le bonheur. Ça, c'est le grand mythe occidental. Ensuite, après, il y a, de manière circonscrite, des avancées sur tel ou tel domaine. Il y en a eu plein.
Oui.
Mais en même temps, il y a eu des reculs.
Le néolithique, l'avènement de l'agriculture, à peu près il y a 10 000 ans, vous montrez à quel point, finalement, cette période est une première forme d'affrontement des êtres humains avec leur milieu.
Alors, c'est pas selon ma thèse, c'est la thèse de James Scott, grand politiste, mais qui s'est pas mal lancé, en quelque sorte, en anthropologie. Et effectivement, alors, le néolithique, lui, parle même d'anthropocène faible, et c'est pas tout à fait faux. C'est vraiment un moment donné où nos relations à la nature vont complètement changer. Si vous voulez, quand vous êtes du côté du paléolithique, il n'y a pas à proprement parler de division sociale du travail. En tout cas, elle semble très très faible, et pourtant, il y a déjà des savoir-faire qui sont relativement élaborés. Mais l'ensemble des gens, à différents moments de l'année, vont les pratiquer. Ce qui va se passer avec le néolithique, c'est qu'on va spécialiser l'immense majorité de la population, c'est-à-dire entre 80 et 90% des gens, à des tâches agricoles, répétitives. Et en fait, la gamme d'expériences que ces gens vont avoir est extrêmement faible. Mais commençons déjà par leur squelette. Quand on analyse le squelette de ces premiers agriculteurs, il est beaucoup plus petit que celui des chasseurs-cueilleuses du paléolithique. Ils ont des déformations osseuses dues à la pénibilité de leur travail. Et si vous voulez, leur existence est quand même extrêmement bornée. Il n'y a plus que certaines choses qu'ils vont savoir faire. Petit à petit, cette révolution néolithique va développer ce qu'on appelle la division sociale du travail. Si vous voyez, par exemple, en termes de spiritualité, dans un peuple premier, c'est diffus dans la société. Là, ça va être capté par un clergé. C'est-à-dire qu'en fait, la gamme d'expérience des individus... Imaginez un chasseur au paléolithique, il va devoir apprendre à interpréter tout un tas d'indices, d'icônes dans la nature. Il va développer son intelligence de façon extrêmement plénière. L'agriculteur, ça va être beaucoup plus réduit. Et donc, en fait, on a rétréci les possibilités de la quasi-majorité, enfin, de l'écrasante majorité de l'humanité pour en fait peut-être aussi ouvrir celle d'un petit nombre. C'est pas génial au bout du compte.
Donc voilà, le néolithique, les germes en tout cas des inégalités hein, qui sont aussi aujourd'hui le constat que vous faites sur cette démocratie qui est la nôtre hein, au fond.
Alors totalement, les inégalités ont sans doute été renforcées par le néolithique. Au bout de quelques années, il va déboucher sur l'avènement d'États. Et d'États qui sont très souvent, même quasi systématiquement, des États esclavagistes. C'est-à-dire pour le bien-être d'une toute petite partie de la société, on va quand même condamner, comme le dit la Bible, hein, les autres à la vallée des larmes. Oui. Donc, dans le genre progrès, c'est pas génial.
Dominique Bourg, l'écologisation, c'est un mot qui est pas très joli d'ailleurs.
Non, il est moche.
De la société, ça veut dire quoi alors?
Ça veut dire beaucoup de choses, parce que si vous voulez, l'écologisation de la société aujourd'hui, c'est en fait remettre un peu les pendules à zéro sur tous les plans. Mmh. Déjà, si on veut écologiser la société, on peut pas le faire sans resserrer les inégalités. Aujourd'hui, on est dans... Alors la France, c'est pas les États-Unis, mais quand même, le degré d'inégalité n'est plus ce qu'il était dans les années 70, par exemple. Et donc, en général, on veut essayer de faire fonctionner ça avec des taxes. On l'a vu avec les gilets jaunes.
Taxes carbone, ben oui, voilà. Bien sûr.
Et ces taxes, elles ne vont en fait impacter que les plus pauvres. Mmh. Et ça, c'est vraiment un problème. Et en même temps, les inégalités dans la société, ce sont aussi des inégalités par rapport à l'environnement. Hein, aujourd'hui, vous avez les 10% les plus riches de la population humaine à l'échelle mondiale qui émettent 50% des gaz à effet de serre et vice versa. 50% les plus pauvres n'émettent que 10%. Donc en fait, si vous voulez, ce dont on est en train de s'apercevoir, c'est que l'écologique et le social, c'est le recto et le verso d'une même feuille de papier. Mmh. Si vous voulez réduire notre souveraineté par rapport au monde, c'est-à-dire arrêter de tout détruire, il faut resserrer les inégalités. Ça va pas être simple.
Voilà, et jouer à la fois sur les techniques, mais aussi sur les comportements. Très important, on en discutera avec vous
absolument
dans un instant. Le marché contre l'humanité, Dominique Bourg, aux Presses universitaires de France. Vous êtes l'invité de la Terre au carré. Et on dialogue avec vous au 01 45 24 7000.
France Inter. La Terre au carré.
Camille Cronier, vous nous emmenez au Sénat aujourd'hui, chouette.
Oui, vous avez de la chance. Jeudi dernier avait lieu dans l'hémicycle du Palais du Luxembourg un débat sur un rapport dont je vais vous donner l'intitulé « Adapter la France au dérèglement climatique à l'horizon 2050, urgence déclarée ». Débat en présence de la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne. Un hémicycle très clairsemé, comme on dit, mais les absents avaient tous une bonne excuse.
Vous étiez au débat dans l'hémicycle ?
Non. J'arrive de Normandie, de chez moi, donc je débarque un instant.
Pas du tout. Je présidais la commission des affaires européennes, donc je ne pouvais pas y être.
J'étais en audition jusqu'à 12h30.
J'étais en réunion de ma commission.
Vous étiez au débat ce matin ou pas ?
Non, parce que j'étais ailleurs, vous savez, on ne peut pas être au four et au moulin. Hein.
Oui, c'est logique. Et justement, alors à ce sujet, j'ai croisé une sénatrice totalement à cran.
Il y a des réunions partout, madame, je ne sais pas si vous êtes rendu compte. Vous avez vu combien il y a de personnes, combien il y a de réunions dans la maison. On ne peut pas tenir à toutes les réunions, c'est pas possible. En plus, j'ai un zonage, je suis en train de me faire soigner, donc j'y vais vite.
La pauvre. Alors, pas là non plus. Donc, encore un absent, mais alors lui, tout à fait ironique.
Ah, ben j'ai d'autres obligations.
L'écologie. C'est un sujet important ?
Oui, fondamental.
Et il est parti en levant les yeux au ciel. Alors beaucoup d'autres quand même, malgré leur absence au débat, sont bien conscients de l'urgence climatique déclarée, comme l'écrit le rapport. Et tous, quel que soit leur groupe politique, m'ont dit la même chose.
Moi, j'aime pas le blablabla. Je préfère qu'on ait face de l'action. Il faut être pratique.
Stop au diagnostic. Maintenant, il faut tous se mettre en action.
Eh bien, il faut prendre des solutions concrètes.
Il ne faut pas que ce ne soit que des mots. Il faut des actes
et
très vite.
Vous savez quoi ? Eh bien, ça tombe bien, puisqu'à la tribune, Elisabeth Borne était exactement sur la même longueur d'onde.
Je souhaite vous présenter l'action conduite par le gouvernement et l'accélération que je souhaite lui donner.
Allez, c'est parti alors.
La France est l'un des pays les plus avancés en matière de planification de l'adaptation. Après une stratégie nationale en 2006, elle s'est dotée d'un premier plan d'action en 2011. En décembre 2018, le gouvernement a publié le deuxième plan national d'adaptation au changement climatique, le PNAC 2.
Bon, allez, elle contextualise, c'est normal. Mais oui. Et place aux actions, donc.
Le PNAC 2 comprend 58 actions réparties dans 6 domaines.
Ah, on y est.
Il me semble cependant que nous devons accélérer nos efforts. C'est pourquoi je souhaite que le PNAC 2 soit renforcé et que sa mise en œuvre soit accélérée.
Eh ben non, toujours pas. Mais après déjà 6 minutes à la tribune, la ministre se lance enfin.
Je souhaite tout d'abord qu'un retour d'expérience exhaustive des 2 épisodes de canicule de 2019 soit réalisé.
Un bilan canicule. On continue avec 3 autres actions.
Un kit d'information pour les nouveaux élus communaux et intercommunaux ainsi qu'un parcours de formation leur sera proposé en 2020 dans le cadre de leur droit à la formation. Bientôt 10 ans après la tempête Xynthia, nous ferons un point des nombreuses actions conduites et de ce qui doit être renforcé. Enfin, pour les territoires de montagne, nous allons finaliser un plan de prévention des risques d'origine glaciaires et périglaciaires.
Donc, un kit pour les élus, un bilan sur les risques naturels et un plan de prévention. Dernier bilan pour la route.
Des actions sont également conduites sur les réseaux électriques, tant pour les situations de forte chaleur que pour celles d'inondation. Un bilan sera utilement conduit pour voir si des accélérations sont nécessaires. Et nous avons bien d'autres idées que je ne vais pas citer immédiatement, mais je pourrais y revenir dans le débat.
Dommage. Je vous en donne une quand même, Mathieu. Un séminaire annuel, par exemple, pour les élus locaux et les associations, donc pour faire un point régulier, un bilan, donc.
Vous le voyez, le gouvernement est pleinement mobilisé pour réussir l'adaptation de notre pays au changement climatique. Je vous remercie.
On le voit bien. Et puis c'est finalement, écoutez bien, cette sénatrice qui va résumer le mieux la situation.
Il faut prendre le temps, surtout quand c'est urgent.
Voilà, je vous laisse méditer. Alors, Dominique Bourg, justement, vous parlez des politiques dans votre livre. Vous citez le président Emmanuel Macron, son fameux « Make our planet great again », en poursuivant, non sans une pointe d'ironie, mais en même temps, il n'est aucune avancée tangible en matière de climat. Vous pensez que ce qu'on vient d'entendre au Sénat illustre exactement ce que vous êtes en train de décrire ?
Parfaitement, je dirais que ça commence très mal. Quand vous commencez un discours en disant « nous sommes les meilleurs », en général, ça vous interdit toute marge d'amélioration. Non, là c'est presque un gag, hein. C'est les infos pour les nuls, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune action concrète. En fait, il y a des mairies qui font des choses très intéressantes. Si je prends par exemple la ville de Grande-Synthe, que j'aime beaucoup, du temps de Mathieu Carême, ils ont racheté énormément de terres pour les allouer à du maraîchage en permaculture, à de l'agroécologie, etc., pour construire une résilience alimentaire. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, quand on produit une calorie alimentaire, on a utilisé 10 calories fossiles. Et quand vous écoutez ce que nous raconte l'Agence internationale de l'énergie, ce qu'on sait sur le fait qu'on est sur un pic pour le pétrole conventionnel depuis 2006-2008 et que le taux de déflation pourrait être de 6 à 8% et qu'on ne va pas combler par les non conventionnels, c'est peut-être pas idiot de s'intéresser à des modes de production alimentaire moins pétroliers.
En tout cas, vous êtes critique, hein. Vous balancez le gouvernement ressemble à une équipe de commerciaux formés à l'aune d'une prétendue science économique amorale sans le moindre sens de la chose publique, considérant les citoyens comme des concurrents éloignés de la manne publique à capter ou ce qu'il en reste.
Bah, écoutez, oui, on vend ADP, bientôt, paraît-il, on va vendre les routes nationales, peut-être les universités, peut-être la Caisse des dépôts et consignations. Si vous n'appelez pas ça une équipe de commerciaux, je me demande bien de quoi il s'agit.
Allez, Camille Cronier, c'est à réécouter sur franceinter.fr et Dominique Bourg, vous pouvez dialoguer avec lui dans un instant, 01 45 24 7000 et franceinter.fr.
Oh,
Mibi, c'était Cassius.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Le marché contre l'humanité, donc c'est un ouvrage qui paraît et que vous signez. Dominique Bourg aux Presses universitaires de France. Il y a beaucoup de messages pour vous et d'auditeurs qui souhaitent dialoguer avec vous. Donc on va tout de suite les accueillir. Je crois que c'est Mathieu que nous avons pour commencer. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Bienvenue à vous. On écoute votre question pour Dominique Bourg.
Je vous remercie. C'est très simple. La démocratie athénienne ne serait-elle pas une solution face à une classe politique, aussi bien gouvernementale, assemblée nationale que sénateur, bien souvent acoquinée avec les multinationales ou des grands syndicats, voire même corrompus ou sous pression, et qui, par là, ne prennent que rarement une décision pour le bien du peuple, mais avant tout pour justement favoriser une économie qui sert leurs amis, on va dire, ou ceux qui sont au-dessus d'eux, on va dire.
Dominique Bourg, pour répondre à Mathieu.
Alors, merci Mathieu pour la question. Déjà, attention, la démocratie athénienne, c'est une démocratie qui ne concerne qu'une petite partie de la population. L'essentiel des gens sont soit des esclaves, soit des étrangers, des métèques, comme pour reprendre le terme grec, et donc elle ne va concerner qu'une petite partie. Cela dit, elle est très intéressante. Effectivement, il n'y a pas de grosses entreprises, il n'y a pas de multinationales à l'époque, ça vous imaginez bien. Et par exemple, les Grecs, à un moment donné, ont eu un retour en quelque sorte plus important avec leur mine d'argent, et ils ont décidé ensemble de ne pas bénéficier individuellement du surplus monétaire généré par les mines, mais de l'investir dans la flotte. Et c'est ce qui va leur permettre leur victoire à Salamine contre Darius. Eh bien, c'est un peu ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Simplement, effectivement, les gens qui nous gouvernent n'ont pas ce sens chevillé de la chose publique comme on l'avait autrefois, même si à l'époque, c'était une chose publique assez restreinte.
La démocratie telle que nous la connaissons aujourd'hui, elle va forcément évoluer là, dans les prochaines années ?
Si elle n'évolue pas, elle va disparaître de toute façon. C'est-à-dire que soit, de deux choses l'une, soit on arrive à prévenir un peu, soit on est confronté à une pénurie, à des problèmes de toutes sortes, elle va voler en éclats et très probablement pour un régime à la Bolsonaro ou à la Trump, c'est déjà parti. Donc c'est pourquoi il est très important aujourd'hui de savoir se défendre, de savoir aller parfois dans la rue avec Extinction Rébellion, manifester son mécontentement.
On va prendre Guillaume en ligne qui a justement une question à ce sujet à vous poser. Bonjour Guillaume.
Oui, bonjour.
Merci d'être là, on vous écoute.
Alors justement, je voulais savoir ce que vous pensiez d'Extinction Rébellion, qui mène une campagne actuellement dans plus de 60 pays. C'est un mouvement de désobéissance civile à base d'actions non violentes, qui a uniquement quatre revendications simples et claires. La première, c'est d'arrêter de raconter des salades, de dire la vérité sur l'état de la crise écologique et sur le fait qu'on n'est pas à la hauteur. La deuxième, c'est équilibre carbone en 2025, pas émettre plus qu'on ne récupère. La troisième, c'est arrêter les destructions d'écosystèmes qui sont en cours. Et la quatrième, c'est le sujet dont vous parlez, c'est de mettre en place, enfin, la proposition d'Extinction Rébellion, c'est de mettre en place des assemblées citoyennes pour superviser la transition écologique. Il faut savoir que c'est un mouvement qui est entièrement horizontal. Il pratique enfin, nous pratiquons, j'en fais partie.
Voilà, j'allais vous le demander, mais on en a la certitude.
On est très horizontal et démocratique, ce qui est parfois compliqué, mais on y arrive. La preuve, il y a la campagne en cours.
Non, mais c'est très bien. Hein. Moi, j'ai mes enfants qui sont en ce moment à Paris, venant de Suisse, avec Extinction Rébellion. Je les connais alors en Suisse depuis leur origine, etc. Si vous voulez, la philosophie du mouvement me convient parfaitement. Ce qui est très important pour moi, c'est déjà un mouvement non violent, respectueux de ceux contre qui on s'oppose. C'est un mouvement qui va au-delà de la simple question climatique. Extinction Rébellion, en fait, si vous focalisez sur le climat, vous pouvez, au nom du climat, c'est le cas des émissions négatives, détruire la biodiversité. Donc c'est très important de bien faire ça. Et là, Extinction Rébellion l'a bien compris. C'est un mouvement démocratique. Alors si vous voulez, la neutralité carbone en 2025, ça va être dur. Mais en tout cas, imposer, essayer de mettre sur la place publique un objectif comme ça, c'est fait pour faire bouger. Et en ce sens-là, je suis quand même pour, même si je sais que c'est pas possible.
Guillaume, lorsque Ségolène Royal au micro de France Inter d'ailleurs dénonce la violence de votre mouvement, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ?
Je pense que ça serait bien qu'elle vienne parler avec nous, elle se rendra compte que non seulement on n'est pas du tout violent, mais qu'on a on a un mode de fonctionnement qui est vraiment constructif. Et elle est ambassadrice pour les pôles, franchement, plutôt que de enfin, on a vraiment été surpris et choqués par ces déclarations dans Extinction Rébellion. C'est vraiment, on a trouvé ça choquant. Soit elle ne sait pas de quoi il parle. Enfin,
C'est une possibilité.
Oui, j'ai bien peur que ce soit même une réalité. Mais moi aussi, j'étais choqué. Je trouve ses propos totalement déplacés et ridicules. Elle est carrément à côté de ce qui se passe, disons, dans la partie qui a le plus d'allant de la société.
Merci beaucoup, Guillaume, pour votre intervention.
Merci.
Un petit message,
Camille. Oui, on a une question mêlée un peu de désespoir de Romuald. Comment pouvons-nous atteindre une écologie démocratique vu que chacun voit son intérêt qui va du loisir au business? Même avec de la bonne volonté, on ne peut que ralentir l'effet dévastateur de notre consommation de ce dernier siècle, Dominique Bourg.
Ah, là, je ne vais pas tout à fait être d'accord avec lui. Alors, bien sûr, on a tous cette tendance, etc., à ne voir en priorité que notre intérêt, mais si vous regardez même votre propre existence, vous verrez qu'il y a plein de choses que vous faites qui ne sont pas directement dans votre intérêt. Et il n'y a jamais une société digne de ce nom qui puisse se construire avec un pur cynisme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la nôtre va assez mal, parce qu'on a mis ça, follement en avant. Donc non, il ne faut pas du tout désespérer de ce côté-là. Il y a des ressorts dans l'humanité qui sont des ressorts puissants, qui sont des ressorts de solidarité, qui sont des ressorts de recherche de sens. Et on est dans une société qui les a pris à revers et qui est extrêmement simpliste et dans ses modes d'ordre et dans ses modes d'organisation. Mais on voit bien que maintenant, une partie de plus en plus importante de cette société décroche.
Vous dites, de toute façon, le problème n'est plus de maximiser la production de richesses matérielles, mais au contraire de diminuer fortement.
Fortement.
S'il y a un message à entendre, c'est
fortement.
Peut-être celui-là.
Et juste un mot, Mathieu, là j'ai vu un sondage en France, vous avez 72%, je crois, de la population qui est d'accord pour reconnaître que notre modèle économique est mort.
Denis, bonjour, vous nous appelez de l'Oise, bienvenue à vous.
Oui, bonjour, j'aimerais déjà rebondir sur les propos effectivement de Ségolène Royal. En fait, pour moi, la violence ne vient pas forcément des associations qui se battent pour un monde meilleur, mais vient des politiques qui accréditent justement une économie ultralibérale et qui dévaste malheureusement notre planète. Mais là, bon, c'était rebondir effectivement sur des propos qui ont été tenus. Mais pour aller plus loin, une réflexion et une question en même temps. Le réchauffement climatique et le franchissement du pic pétrole depuis 2008 nous conduisent à penser une décroissance soit subie et brutale, ou soit organisée et tenable. Alors, soit subie et brutale, qui remettrait en cause notre humanité même. En revanche, organisé et tenable, collectivement, on pourrait peut-être envisager s'en sortir. Et je pense que chacun d'entre nous doit éventuellement agir, même si penser qu'individuellement, c'est être, dans la pensée colibri, mais sachant que chaque Français émet en moyenne 7 tonnes de CO2 par an, il suffirait de restreindre notre niveau de vie sans pour autant atteindre à notre confort. Je pense au voyage, je pense à notre alimentation, je pense au smartphone qu'on change tous les ans, je pense à la rénovation de l'habitat qui, pour le coup, peut avoir effectivement des aides de l'État, limiter les achats de vêtements, et bien tout cela ajouté nous permettrait d'émettre 1 à 2 tonnes de CO2, près de 2 tiers d'économisés.
Alors Dominique Bourg vous répond parce qu'on arrive au terme de cet entretien, je suis désolé de vous presser.
Je suis d'accord avec ce qu'il a dit, il faut répéter, toujours répéter qu'en fait ce qui détruit l'habitabilité de la planète, ce sont essentiellement, c'est un peu plus compliqué, mais ce sont essentiellement nos flux d'énergie et nos flux de matière. Et on les dépense pour des âneries. Je crois, Sébastien Boller qui racontait ça, que 30% des vidéos qui dépensent beaucoup d'énergie sur le web, c'est les chats ou les trucs porno. Donc voilà, il y a quand même des marges très importantes.
Merci beaucoup. Dominique Bourg s'appelle Le marché contre l'humanité. Ça paraît aux presses universitaires de France. Merci d'être venu aujourd'hui dans la Terre au carré. Juste après les infos, le feuilleton de la semaine, nous repartons à Langouette en Ille-et-Vilaine avec Sandy Dauphin qui va nous emmener aujourd'hui sur le chantier d'un futur lotissement écologique. Logique. Vous écoutez France Inter, il est 14h.
France Inter, la Terre au carré.
Au menu de cette deuxième heure, vos solutions pour la planète avec Martin. C'est un auditeur qui va nous parler des ressourceries, ces lieux où l'on donne une deuxième vie aux déchets. Vous connaissiez, Camille?
Non, mais hier c'était Martin aussi déjà, mais c'était sur le corail. Voilà.
Et puis enfin, nos invités découvertes sont deux jeunes scientifiques qui vont recevoir ce soir le prix Jeune Talent de la Fondation L'Oréal. L'une va nous parler d'un habitat pour les baleines et l'autre de mobilité électrique plus éco-responsable. Mais pour le moment, place au reportage. Avec vous, Sandy Dauphin, bonjour.
Bonjour.
Et nous repartons à Langouette, ce village breton qui se trouve en Ille-et-Vilaine.
Oui, ce village qui fait figure de véritable laboratoire écologique. Alors après l'école, hier, on parle habitat aujourd'hui, la mairie encourage la construction d'un nouveau lotissement qui pousse la démarche environnementale, vous allez le voir, le plus loin possible, 8 maisons en bois juste à côté du centre du village. Le projet est mené par une jeune aménageuse bretonne. Bonjour Madame Loyer.
Bonjour.
J'ai pas forcément mis les bonnes chaussures
pour ça,
un chantier.
Il a vraiment. Alors, il a plu cette nuit. Hier ça allait encore, mais ce matin c'est vraiment. Je suis Anne-Maude Loyer. Je suis aménageure à Passé, juste à côté de Rennes. J'ai fait 10 ans de lotissement classique avant. Je trouve qu'on était dans une dynamique où il fallait faire toujours plus de profit. Les gens se cloîtraient de plus en plus chez eux. Il fallait faire des kilomètres de voirie, du goudron, en fait. C'est pas cohérent avec tout ce qui se passe et l'urgence qu'il y a à se mettre, enfin, qui se met en place actuellement. Je comprenais plus, en fait. J'ai voulu me lancer sur des choses beaucoup plus en rapport avec la nature, avec l'environnement.
Pour l'instant, c'est assez boueux. Il y a des engins de chantier. Ça. On en est au démarrage.
Mais alors, c'est la phase pas glamour du tout.
La particularité, c'est qu'habituellement, quand on voit un début de chantier comme ça, on se dit, bon, on va venir couler des dalles en béton.
Non, ouais. Là, c'est.
Et là, c'est pas le cas.
Dans le cahier des charges, c'est marqué très clairement, il n'y a pas de béton, il n'y a pas de PVC, il n'y a aucun matériau. C'est que des matériaux biosourcés qu'on accepte au niveau des maisons.
Alors biosourcés, pour expliquer aux gens, ça veut dire d'origine naturelle.
Exactement. Du bois, de la pierre, des choses comme ça en fait.
Donc, sont des maisons en bois?
Des maisons en bois, ouais. C'est des pieux métalliques et puis ils creusent à 5 mètres. Ça tient très bien la maison. Quand on enlève la maison, il y a un impact qui est minime sur le sol, quoi.
Pas bétonné, quoi.
Non.
Ça va ? Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Je vais vous demander votre prénom, votre nom et comment je vous présente.
Donc, David le prénom, Thomas le nom de famille.
Vous allez acheter une maison à Langouette, dans le nouveau lotissement.
Oui, c'est ça. On a fait partie des gens qui étaient très vite candidats, en fait, pour venir. Toutes ces questions écologiques, ça me traverse depuis très très longtemps. Donc là, c'est une sorte de manière d'aller au bout de la démarche. J'y allais avec ma femme et mes enfants, enfin, voilà, et d'aller vraiment au bout de tout ça. Nous, on a choisi d'aller jusqu'à même prendre des toilettes sèches. Enfin voilà, donc on est vraiment
Alors, est-ce qu'on peut visiter votre maison?
J'ai un plan d'avis si tu veux.
C'est une maison qui fait combien de mètres carrés?
96 mètres carrés. Donc elle est là. Voilà. Et donc la maison, c'est comme un carré, en fait. Donc voilà, avec ici une grande terrasse. Et tout là, il y a des baies vitrées partout. Pour justement bien exposer sud, pour qu'on récupère le maximum de chaleur, justement, avec ces baies vitrées.
Pour chauffer le moins possible.
Exactement.
Autre chose?
Oui, il y a aussi des panneaux photovoltaïques qui vont être installés. Donc c'est vrai qu'on va être quasiment sur de l'autonomie énergétique. L'idée, c'est vraiment que les factures énergétiques soient les plus basses possibles.
Est-ce que cette maison vous coûte très cher par rapport à une maison habituelle?
Non, par rapport à ce qu'on ferait si on faisait une maison de cette même taille-là, avec l'achat du terrain, etc. Nous, on va payer, je crois, c'est autour de 200, 2000 euros, je crois, le tout.
Pour 86 mètres carrés.
96 mètres carrés, avec une maison qui va donc être passive. Donc, dans l'absolu, on sait que la facture énergétique elle va être très, très basse. C'est vrai que ça fait aussi réfléchir, c'est-à-dire que c'est accessible à beaucoup de monde, ouais.
C'est à la fois un projet de famille, mais c'est aussi un projet collectif. C'est-à-dire, comment vous allez vivre avec les autres gens? Vous connaissez déjà vos voisins
ou... Pas du tout. On ne connaît pas du tout les voisins. On va sans doute se rencontrer bientôt. Donc on va voir après. Je pense qu'il y a des décisions collectives à prendre sur qu'est-ce qu'on va cultiver dans le jardin partagé. Est-ce qu'on met un four à pizza? Est-ce qu'on met un terrain de pétanque? Il y a un côté, ça va être intéressant de prendre des décisions en collectif. Après, on sait qu'il y a des choses à bien respecter. La hauteur des arbustes, pour séparer avec les voisins, etc.
Donc. On a un cahier des charges bien précis parce qu'on veut créer en fait une unité visuelle dans le hameau, mais en même temps que l'espace soit ouvert. Donc on a demandé à ce que les barrières, les clôtures aillent à 1,20 m uniquement de hauteur en fait.
Que les gens ne soient pas claquemurés chez eux.
Voilà, exactement. On a le droit d'être tranquille quand même, mais...
Il faut quand même respecter l'intimité.
Bon, c'est ça, ça n'en est pas... voilà, c'est ça.
L'autre différence par rapport à un lotissement normal, c'est qu'on, quand on rentre le soir, on ne garde pas sa voiture, si on en a une, devant chez soi.
Non, c'est ça. On ne peut pas se garer en fait devant chez soi. Donc on a des carports communs, comme des garages ouverts en fait. Dans l'idée, on veut créer des ambiances place de village où les gamins ils peuvent jouer devant et il n'y a pas à se prendre la tête. Enfin, la voiture n'est pas prioritaire en fait sur le hameau, quoi.
La démarche ici, c'est revenir près du centre du village?
Ah oui, oui.
pour faire vivre la commune. Mais moi, ça me paraît cohérent plutôt que de rester, de s'isoler.
Et d'aller acheter son pain en voiture.
Voilà, c'est ça.
Et puis, autre particularité, Mathieu, il n'y aura pas d'éclairage public dans ce lotissement pour préserver la biodiversité et notamment la tranquillité des oiseaux.
Suite de votre série à Langouette demain, Sandy.
Il sera question de l'épineuse question des transports en zone rurale.
Merci beaucoup et votre reportage est à réécouter évidemment sur le site de La Terre au Carré.
France Inter. La Terre au Carré.
Vos solutions pour la planète avec vous aujourd'hui, Martin Bobel. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue
Bonjour.
À vous. Vous êtes le coordinateur du, on dit REFER, comment on le prononce?
Oui, c'est ça, on dit REFER. C'est le réseau francilien du réemploi.
Voilà. Et vice-président du réseau national des ressourceries. Alors, en ce moment, c'est justement la semaine des ressourceries. L'occasion d'en savoir plus sur ces lieux qui prennent de l'ampleur, mais qu'on ne connaît pas encore très, très bien. J'avoue que je ne connaissais pas leur existence il y a encore quelques jours à peine.
C'est quoi une ressourcerie, Martin?
Alors, une ressourcerie, c'est une structure qui va collecter les objets dont les gens ne veulent plus. C'est-à-dire qu'elle va les collecter, mais surtout avec pour objectif de faire en sorte que les objets durent le plus longtemps possible, les réparer et les redistribuer.
Mais Emmaüs, c'est une ressourcerie alors, Martin?
Alors, Emmaüs, c'est un peu comme une ressourcerie. Et d'ailleurs, en fait, aujourd'hui, Emmaüs et les ressourceries se retrouvent de plus en plus. Ce sont des structures qui travaillent et sur les questions environnementales, c'est-à-dire faire durer les objets le plus longtemps possible, et sur les questions sociales, c'est-à-dire employer des personnes en difficulté ou redistribuer des objets à très bas coût.
Donc vraiment, l'idée, hein, c'est de redonner une deuxième vie aux objets plutôt que de finir incinérés ou dans les déchetteries, justement, hein.
Ouais, c'est ça, exactement. En fait, aujourd'hui, on enfouit et on incinère un peu plus de 50% de nos déchets. C'est très mauvais pour la planète. Et il y a une grosse partie de ces déchets qui pourraient être réutilisés. Et donc, le gros enjeu, c'est faire en sorte qu'on déporte une partie de ces déchets et une partie des financements aujourd'hui qu'on dirige vers l'incinération et l'enfouissement pour développer les ressourceries, le réemploi et la réutilisation.
Et Martin, du coup, ce sont n'importe quel objet qu'on peut donner. Ça peut être des vêtements abîmés,
des meubles,
des télévisions cassées, que sais-je encore.
Alors, vous pouvez apporter dans une ressourcerie tous les objets du quotidien, sauf les déchets dangereux, par exemple des batteries ou des pots de peinture. Mais en gros, tout ce qui fera les objets que vous utilisez au quotidien, des meubles, des vêtements. Des biens culturels comme des livres, des CD, des DVD, et ce, même si c'est cassé. L'objectif de la ressourcerie, c'est tenter de réparer ou de trouver une seconde vie, et si elle peut pas, elle le réenverra dans les filières de recyclage.
Alors Martin, il y a plusieurs aspects qui sont vraiment très intéressants dans ces initiatives à la fois de solidarité et d'économie circulaire. On va parler de l'emploi avec vous dans un instant. La première chose peut-être, c'est aussi l'accompagnement des citoyens pour essayer précisément d'engager de vrais changements dans notre gestion et notre rapport aux déchets, hein.
Alors ça, c'est pour nous le sujet le plus important. C'est-à-dire que ces structures vivent grâce à la mobilisation des citoyens. C'est-à-dire qu'elles vivent parce que les gens apportent des objets au quotidien. Et donc c'est leur cœur de métier, en fait, de mobiliser les gens qui habitent autour de là où elles s'implantent. Et cette mobilisation-là, elle est indispensable pour répondre collectivement aux questions de la crise écologique.
Alors comment vous faites pour sensibiliser les gens? Vous avez de vrais ateliers d'information? Comment vous procédez?
Alors, ça dépend des projets et c'est là où c'est extrêmement riche. La plupart des ressourceries, recycleries, elles organisent des ateliers dans lesquels les gens peuvent venir, par exemple, apprendre à réparer ou à apprendre à fabriquer, des cosmétiques ou fabriquer des objets. Et puis sinon, elles permettent aussi aux gens de s'impliquer dans leur organisation. C'est-à-dire on permet aux gens de venir participer bénévolement dans les ateliers. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que, en fait, ça refabrique une culture commune de l'obsolescence programmée, mais aussi des métiers qu'on a perdus, qui sont des métiers indispensables demain pour faire durer nos objets le plus longtemps possible et répondre efficacement à la crise.
Alors, la partie emploi, ça, c'est vraiment extrêmement important, Martin, puisque le but aussi, c'est de pouvoir favoriser l'emploi de personnes peu qualifiées, par exemple, ou qui vivent dans des conditions difficiles. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, hein, dans ce projet de ressourcerie.
Ouais, alors, ça, c'est un peu l'historique Emmaüs. Réemployer des objets au service du travail social et de l'emploi solidaire. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui reste, même quand on rajoute les enjeux écologiques. On s'est rendu compte que ce sont des secteurs qui sont extrêmement employeurs. C'est-à-dire quand on regarde le reste du secteur du déchet, aujourd'hui, ressourcerie, recyclerie et Emmaüs sont 850 fois plus employeurs que l'enfouissement et 150 fois plus que l'incinération. Je peux même en rajouter un, on est aussi 27 fois plus employeurs que le recyclage. Donc en fait, si toutefois on détournait, ce que je disais tout à l'heure, une partie des objets qu'on gaspille aujourd'hui parce qu'on les met sous terre ou parce qu'on les incinère, si on les détournait vers les structures de réemploi, on pourrait créer énormément d'emplois, et en majorité des emplois pour les plus précaires d'entre nous.
Et on pourrait quasiment faire une équation hein, entre les tonnes de déchets récoltés et les emplois qui en découlent.
Alors, on a des chiffres statistiques qui nous sont aujourd'hui donnés par l'ADEME, et on sait que quand on passe 10 000 tonnes dans une ressourcerie, recyclerie, on crée tant d'emplois, et quand on passe 10 000 tonnes dans un centre d'enfouissement, on en crée tant.
Et Martin, comment on fait, parce qu'on connaît tous Emmaüs, c'est vrai qu'on a souvent le réflexe, si on a un vieux canapé, une vieille armoire, on va aller la donner chez Emmaüs. Comment on fait pour savoir où on peut retrouver une ressourcerie près de chez nous si on a des objets?
Alors, vous pouvez aller sur... Alors, c'est là où nous, on a encore un gros travail à faire collectif, parce que on a un site Emmaüs France qui permet de savoir où sont les Emmaüs, on a un site ressourcerie qui permet de savoir où sont les ressourceries. Mais notre objectif à court terme aujourd'hui, ce serait de créer un site national qui nous permet de dire où sont toutes les structures qui font du réemploi solidaire sur le territoire. Et on n'a pas encore, mais c'est pour bientôt.
Vous n'êtes pas en concurrence, entre guillemets, les uns avec les autres. Hein. Vous êtes là en complément, en complémentarité peut-être.
Alors ça, pour le coup, notre philosophie aujourd'hui, c'est de dire plus on coopérera les uns avec les autres et plus on sera efficace. Donc là, on travaille majoritairement à éviter la concurrence entre nous. Et concurrence, il y en a assez peu parce que, en fait, au final, on gaspille tellement d'objets que les structures de réemploi locales n'en manqueront jamais. Et puis après, la demande d'achat d'occasion augmente aussi énormément. Ouais. Et sur notre sujet, on est des secteurs d'occasion solidaires, c'est-à-dire qu'on revend à très bas coût. Et donc, en participant à l'augmentation du pouvoir d'achat, quelque part, on a de plus en plus de gens qui viennent consommer dans nos structures.
Martin, juste une question pour terminer très rapidement. Est-ce que vous voyez vraiment que les choses bougent aujourd'hui dans les consciences, en tout cas des citoyens, sur la lutte contre le gaspillage, sur justement le désir de ne plus forcément racheter tout de suite des choses neuves et de faire attention au maximum?
Alors, énormément. C'est-à-dire, il y a 10 ans, moi je travaillais aussi encore, je travaillais déjà dans ce secteur-là, et on entendait très très peu parler de nous. Aujourd'hui, on a une demande d'habitants qui augmente énormément, c'est-à-dire que même parfois on a certaines structures qui reçoivent trop d'objets. On sent clairement une demande croissante d'agir concrètement, et en fait, ce sont des structures qui permettent aux gens d'agir à côté de chez eux, mais aussi de se questionner, d'engager des débats, de rencontrer son voisin pour parler de la crise écologique. Et ça fonctionne énormément.
Merci en tout cas, Martin. C'est la semaine donc des ressourceries. Il y en a 157, je crois, en France. Et le site...
Je suis en train de regarder la carte sous les yeux. C'est bien indiqué quand même.
Ressourcerie.fr, Camille.
C'est ça.
Merci beaucoup, Martin Bobel. À très bientôt. Allez, dans un instant, nos invités découvertes, on va parler science avec deux jeunes scientifiques.
On se promène comme tous les soirs. On se dit rien. On va de bar en bar. Ça rime à rien comme tous les soirs. Je suis seul avec toi. Au stand, bonsoir. Spéliade allume la digue. Comme tous les soirs. Aux couleurs nostalgie. Aux couleurs désespoir. Dans les marées, le ciel et nos regards. Je suis seul avec toi. Au stand, bonsoir. Comme tous les soirs. suis seul avec toi. On se tend, bonsoir.
De son nouvel album Ostende, bonsoir, c'était la voix d'Arnaud, bien sûr.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Ce soir, 35 femmes scientifiques de métropole et d'outre-mer vont recevoir le prix Jeunes Talents France de la Fondation L'Oréal en partenariat avec l'UNESCO. L'idée de récompenser leur programme de recherche et nous accueillons cet après-midi deux d'entre elles. Oumaïma Garbi qui est avec nous en studio. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et Solène Derville qui est coincée dans les embouteillages. Bonjour Solène.
Bonjour.
Où est-ce que vous êtes exactement?
Ah, je n'en ai aucune idée.
Non, très bien. En tout cas, vous n'êtes pas en Nouvelle-Calédonie, puisque c'est là que vous êtes d'habitude. Post-doctorante,
non,
donc en...
Non, je crois pas. Il pleut beaucoup trop.
Oui, c'est ça. C'est moche, hein, ici à Paris. Hein. Vous rentrez quand chez vous?
Demain.
Bon, alors vous aurez un petit peu de voyage et puis ensuite vous allez retrouver le soleil, vous qui êtes post-doctorante en biologie marine, donc à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. On va parler donc de ce travail que vous menez autour des cétacés. Et puis vous, Oumaïma Garbi, vous êtes post-doctorante également. Dans quel laboratoire à Paris?
Au laboratoire Interface et Systèmes Électrochimiques à Sorbonne Université, une unité mixte CNRS.
Bravo, ça c'est bien, l'intitulé est parfait.
Exactement.
Qu'est-ce que vous étudiez exactement dans le labo?
Alors je suis électrochimiste de formation et donc j'étudie les réactions qui impliquent des échanges d'électrons. Mmh. Et donc c'est ces mêmes électrons qu'on utilise par exemple pour générer notre électricité.
Bon, pardonnez-moi, mais comment on a l'idée de faire ce type d'étude? Enfin, qu'est-ce qui vous a attiré, vous, dans ce domaine?
Alors, à vrai dire, ça a commencé dès mon master. Donc, j'avais un cours qui expliquait les phénomènes de corrosion. Donc, c'est exactement, en fait, les mêmes phénomènes qu'on a lorsque notre batterie se dégrade avec le temps. Mmh. Et donc, ce professeur avait un peu comparé ce métier à des détectives.
Ah.
Et lorsque j'étais petite, j'adorais lire les romans d'Agatha Christie.
Ah ben voilà alors. Ouais.
Voilà, exactement. Et j'aimais beaucoup me prendre pour Miss Marple, à vrai dire.
C'est vrai?
Oui, oui, tout à fait. Et donc lorsque ce professeur de master m'a comparé justement donc l'électrochimie à ce détective, donc j'ai vraiment aimé l'idée et j'ai décidé d'embrasser cette carrière.
Ah, ça tient un peu de choses, hein, finalement. Il suffit d'avoir un bon prof qui vous parle avec des bons mots et puis ça vous dessine un parcours.
Oui. Je peux vous demander quel âge vous avez?
J'ai 30 ans.
D'accord, ouais. Donc c'est tout jeune, en plus électrochimie.
Et alors, votre travail aujourd'hui, c'est de mener des recherches alors, sur un domaine tout à fait intéressant, de la voiture électrique, qui contrairement à ce qu'on pense, n'est pas si écologique que cela.
Oui, absolument. Donc effectivement, la batterie lithium-ion, c'est une technologie qui est largement utilisée. Mm-hmm. Et même si elle fonctionne plutôt bien, l'idée, nous, c'était vraiment d'avoir un pas en avant et de réfléchir aux prochaines années. Et lorsque le lithium sera totalement extrait et que nous n'aurons plus assez de lithium sur Terre, parce que pour l'instant, ces batteries sont très peu recyclées. Mmh. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc là, nous avons pensé au fait que, eh bien, effectivement, il faudrait mieux se tourner vers des produits ou des matériaux qui sont parfaitement recyclables et qui seraient aussi abondants, donc beaucoup plus abondants que le lithium, et qui seraient abordables, du coup, pour la population.
Et alors, vous avez déjà des pistes?
Oui, alors nous pensons à utiliser l'aluminium. Ouais. En tant que composant de batterie, donc je ne sais pas si vous voyez comment est-ce qu'une batterie fonctionne un petit peu.
Pas vraiment,
tout.
on n'est pas du tout là-dedans.
Eh bien, sachez que si, je pense que vous savez déjà, parce que la batterie est composée d'un plus et d'un moins.
Ça, oui, on a.
C'est,
voilà,
et puis c'est pareil.
Exactement.
C'est
ça, donc le plus et le moins, en fait, ça correspond à l'anode et la cathode.
Ouais.
Donc le moins, qui est l'anode, c'est cette partie-là qui va permettre de produire les électrons. Et donc nous avons décidé d'utiliser l'aluminium en tant qu'anode, et c'est cet aluminium-là qui va pouvoir produire des électrons.
À la place du lithium, du coup ?
Oui, à place du lithium.
Ça vient vraiment remplacer...
Voilà, exactement. Ouais. Donc à ce moment-là, nous essaierons vraiment de ne plus utiliser le lithium.
Mais parce que l'aluminium pollue moins, entre guillemets, que le lithium, ou parce qu'il y en a plus comme ressource ?
Alors, déjà, il y en a plus. C'est l'un des métaux les plus abondants sur Terre, après le fer. Et ensuite, parce qu'il est parfaitement recyclable. Nous savons comment recycler l'aluminium, donc c'est pour cette raison que nous avons décidé de nous retourner vers cette alternative.
Sauf que, Oumaïma Garbi, est-ce que vous avez déjà fait fonctionner une voiture électrique avec une batterie à l'aluminium ?
Absolument pas.
Et bien alors ?
Donc l'idée, pour l'instant, est encore sous forme de recherche. Effectivement, il y a des articles qui ont déjà proposé cette idée-là. Nous, justement, dans le cadre du projet, c'est d'avoir une approche fondamentale, de vraiment commencer à essayer de comprendre comment est-ce que cette batterie pourrait fonctionner, pour pouvoir l'optimiser et par la suite, dans le futur, proposer une batterie totalement fonctionnelle.
Et cette bourse va vous encourager à poursuivre dans cette voie qui est évidemment très très importante parce qu'il faut résoudre ce problème des voitures électriques.
Exactement, je l'espère.
Solène, qui est coincée donc dans son taxi à Paris, parlez-nous, faites-nous rêver quand même avec ces baleines à bosse qui vous passionnent tant en Nouvelle-Calédonie. Ça fait combien de temps que vous êtes là-bas ?
Ça fait 4 ans que j'habite en Nouvelle-Calédonie.
Et votre sujet de thèse, donc, c'est vraiment sur les baleines à bosse ?
Alors oui, voilà, je travaille sur cette espèce de cétacé, de grande baleine, depuis 4 ans. J'ai terminé ma thèse et maintenant, en post-doctorat, eh bien, je continue à étudier leur distribution, leur déplacement. En fait, j'essaie de comprendre où on les trouve et quand.
Alors justement, il y a beaucoup de baleines en Nouvelle-Calédonie ? On ne penserait pas comme ça ?
Alors en fait, en Nouvelle-Calédonie, il y a 28 espèces de cétacés.
Oh.
Mais parmi ces espèces, il y en a une, c'est la baleine à bosse, qui est assez connue et assez appréciée par le public parce qu'on la trouve très près des côtes. Mais elle n'est là qu'une partie de l'année parce que c'est une espèce migratrice. Donc on la trouve uniquement entre juillet et septembre.
Et vous, Solène, la journée idéale pour aller étudier les baleines, ça ressemble à quoi alors ? Vous êtes devant un ordinateur ou plutôt avec des palmes et une bouteille ?
Bon, alors évidemment, on s'imagine que je passe mon temps sur l'eau, mais comme je viens de le dire, comme mon objet d'étude est migrateur, eh ben, elle n'est là qu'une partie de l'année. Donc moi, nécessairement, eh ben, je ne suis en mer que quelques semaines par an. Mmh. Et le reste du temps, je suis effectivement devant un ordinateur, parce que ce qui me passionne aussi, c'est les statistiques et la programmation appliquées à ces problématiques d'écologie.
Oui. Alors justement, votre travail, c'est autour d'un nouvel habitat de ces baleines à bosse ?
C'est ça. En fait, les baleines à bosse, elles ont été étudiées dans pas mal d'endroits de par le monde et elles sont connues pour être présentes dans les eaux côtières. Mais récemment, en Nouvelle-Calédonie, on a découvert un nouvel habitat. On s'est rendu compte que les baleines à bosse utilisaient les monts sous-marins.
Qu'est-ce que c'est ?
Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est un mont sous-marin ? Comme le nom l'indique, il faut vraiment imaginer une montagne qui s'élève du fond des océans, mais sans atteindre la surface. Et donc, on a de grands regroupements de baleines qui se forment autour de ces structures pendant la saison de reproduction.
Donc, les baleines sont des montagnardes, on peut dire les choses comme ça, finalement.
Oui, des montagnes sous les océans.
Mais elles sont vraiment hautes, ces montagnes ?
Alors, ça dépend, en fait, en fonction du type de formation géologique de ces monts. Il y en a certains qui sont très profonds, d'autres peu profonds. Mmh. Et nous, on s'intéresse à ceux qui vont, être dans des profondeurs entre 100 et 200 mètres. C'est les monts sous-marins que semblent préférer les baleines.
Et donc cet écosystème particulier, il est très précieux aussi pour ces cétacés alors ?
Alors il semble que ce soit vraiment un habitat important pour elles, mais c'est aussi un habitat important pour tout un écosystème pélagique. Les monts sous-marins, c'est souvent des zones qui sont dites très productives parce qu'il y a des nutriments qui peuvent remonter du fond le long des pentes. Et ça va générer beaucoup de vie. Et donc, c'est aussi des endroits où peuvent venir s'alimenter les oiseaux marins, les requins et toutes sortes de cétacés.
Merci beaucoup en tout cas Solène pour ces explications. Bon retour donc demain en Nouvelle-Calédonie. Et puis bravo à toutes les deux puisque je rappelle que vous allez recevoir ce soir au Muséum National d'Histoire Naturelle avec 33 autres lauréates. Ces prix Jeunes Talents France 2019 pour les femmes et la science avec la Fondation L'Oréal et l'UNESCO. Merci beaucoup. Voilà Camille, on sait tout sur les monts sous-marins et les batteries à l'aluminium.
Oui, maintenant on va pouvoir faire des cours à notre entourage.
Exactement. Et on se retrouve demain pour la suite de la Terre au Carré. Merci à toute l'équipe pour la préparation de l'émission, Anna Massardier pour les réseaux sociaux.